écoutez RFI, il est 11h en temps universel, midi à Paris. Et tout de suite le journal présenté par Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. À la une, la première interview de Donald Trump en terrain conquis. Le nouveau président a choisi Fox News pour parler d'immigration, des grâces accordées aux émeutiers du Capitole et de l'administration sortante. Le nouveau chef de la diplomatie américaine, lui, assure de son soutien le gouvernement israélien qui s'est lancé dans une vaste opération militaire à Jenin, à peine la trêve à Gaza conclue. Fuite d'eau, variation de température qui endommage les œuvres d'art, un nombre exponentiel de visiteurs. Le Louvre est victime de son succès. Une note censée rester confidentielle alerte le gouvernement sur l'état du musée. Sa parole est très attendue. Donald Trump s'exprimera cet après-midi à Davos. Après ses multiples menaces d'augmenter les droits de douane tous azimuts, le président américain interviendra par visioconférence au Forum économique mondial. Après son discours, une séquence de questions-réponses est prévue avec les grands patrons. Avant Davos, Donald Trump a accordé sa première interview à Fox News, sa chaîne préférée, l'occasion de revenir une nouvelle fois sur le dossier de l'immigration et de promettre d'expulser des États-Unis des millions de personnes sans papier. 1500 militaires supplémentaires sont envoyés à la frontière mexicaine. Compte rendu du reste de l'interview avec notre correspondant David Thompson.
Pour sa première interview depuis son investiture, Donald Trump ne prend aucun risque et joue à domicile. Le 47e président des États-Unis est assis dans le bureau ovale avec son ami de 30 ans, Sean Hannity, vedette de Fox News, considéré comme son conseiller de l'ombre lors de son premier mandat. Trump est interrogé sur sa grâce générale de plus de 1500 inculpés pour l'assaut du Capitole, y compris pour ceux condamnés pour violence contre la police.
La plupart étaient absolument innocents. Il n'y a eu que des incidents mineurs, ok ? La plupart montés de toutes pièces par des gens de CNN.
Quant à l'hypothèse de représailles contre ses opposants que beaucoup craignent aux États-Unis, Donald Trump semble ne pas les exclure, y compris contre son prédécesseur, Joe Biden.
Joe Biden a de très mauvais conseillers. Quelqu'un a conseillé à Joe Biden de gracier tout le monde sauf lui.
Heureusement pour Joe Biden, avant l'élection, les avocats de Donald Trump étaient parvenus à faire reconnaître par la Cour suprême des États-Unis une immunité présidentielle très large sur les décisions prises en tant que président, décisions qui avaient permis à Donald Trump d'échapper à ses procès. David Thompson, Miami RFI.
Donald Trump a aussi évoqué les incendies à Los Angeles. Le président américain est attendu vendredi sur place alors qu'il a beaucoup vilipendé les autorités locales dans la gestion des feux. Il envisage d'ailleurs de supprimer la FEMA, l'agence fédérale chargée des catastrophes naturelles. Les États devraient donc gérer seuls ces dossiers sans coordination nationale. En attendant, à Los Angeles, les pompiers sont de nouveau très mobilisés. Un nouvel incendie s'est déclenché hier au nord de la ville. Il avance vite. Des milliers de personnes ont dû être évacuées en urgence. Le soutien n'est pas une surprise, mais il est réitéré en pleine opération israélienne à Jenin. Le nouveau chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a appelé le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Il lui a promis un soutien inébranlable. L'armée israélienne a débuté, juste après la trêve à Gaza, une vaste opération dans la ville de Cisjordanie occupée. Des centaines de personnes sont en train de quitter le camp de réfugiés de Jenin, sur ordre de l'État hébreu, selon le gouverneur de la ville. Israël démontre ces informations. Une tempête s'annonce en Europe. Elle va frapper l'Irlande et l'Écosse demain avant de gagner le nord de la France ce week-end. Les prévisionnistes parlent d'une bombe météorologique. Le changement de pression très rapide qui peut être dévastateur. Des vagues de 10 mètres sont attendues et des vents dépassant les 130 km/h. En France, la situation économique continue d'inquiéter alors que les finances publiques sont dans le rouge et l'adoption d'un budget toujours en suspens. Les défaillances d'entreprises et les plans sociaux se multiplient, particulièrement dans l'industrie. Hier, la CGT, l'un des principaux syndicats français, organisait une manifestation devant le ministère de l'économie pour réclamer des mesures d'urgence. Nathalie Vitran s'y est rendue. Reportage.
Est-ce que la CGT est là ?
Devant Bercy, ils sont plusieurs centaines de militants venus de tout le pays. Les chars du bleu rouge et les drapeaux fièrement agités portent les noms d'Auchan, ArcelorMittal, Fonderie de Bretagne, Michelin, Vancorex et tant d'autres. Une carte de France des entreprises qui licencient et des usines qui ferment. À la tribune, le constat de Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, est sans appel.
Nous sommes ici pour forcer le gouvernement et le patronat à sortir du déni et à regarder en face la situation. Il n'y a pas de réindustrialisation. Tous les experts partagent le constat de la CGT. Nous sommes au début d'un tsunami de désindustrialisation.
Illustration près de Grenoble, où le chimiste Arkema vient d'annoncer cette semaine plus de 150 suppressions de postes. Juste à côté, 450 salariés de leur principal fournisseur, Vancorex, se battent depuis des mois pour sauver leur entreprise en redressement judiciaire.
Je vous demande de faire du bruit pour nos camarades de Vancorex.
Parmi eux, Séverine Dejoux, technicienne chimiste et élue CGT.
Vancorex n'est même pas encore mort que Arkema a déjà commencé à lancer son plan social. Dans l'industrie chimique, c'est comme ça, toutes les entreprises sont liées les unes aux autres. Et quand il y en a une qui tombe, ben ça tombe tout en chaîne derrière.
Pour elle, le sauvetage de Vancorex et d'Arkema, c'est pourtant une question de souveraineté.
Nous, on produit du sel qu'on revend à Arkema. Et de notre sel, on produit les éponges de zirconium pour le refroidissement des réacteurs nucléaires en France. On produit le carburant de la fusée Ariane et le carburant des missiles de défense français.
Pour l'heure, on ne peut pas dire que la réponse de Bercy ait satisfait les premiers concernés.
Quand on a rencontré le ministre de l'Industrie, la seule chose qu'il est capable de nous dire, c'est on a aidé à vous obtenir une prime de licenciement. Mais nous, on veut pas. Nous, on n'était pas venu voir le ministre des primes de licenciement. On était venu voir le ministre de l'Industrie.
La CGT réclame donc des nationalisations et un moratoire sur les licenciements, deux concepts qui ne figurent pas vraiment dans le vocabulaire du Premier ministre.
À l'étranger, la Chine et les États-Unis en tête n'hésitent pas à nationaliser, à protéger leurs fleurons industriels, à mettre en place des plans d'investissement massifs.
La situation, elle, risque encore de s'aggraver. Auditionné le même jour par l'Assemblée nationale, le président d'ArcelorMittal France a prévenu que tous les sites de sidérurgie européens risquent la fermeture en 2025 si rien n'est fait pour protéger l'acier européen, notamment de la concurrence chinoise.
Tous ensemble, tous ensemble !
Un reportage signé Nathanaël Vitran. Et maintenant, cette question, est-ce que le Louvre est mal en point ? Une note confidentielle révélée par la presse fait état notamment de fuites d'eau, de variations de température néfastes pour les œuvres d'art. La présidente du célèbre musée parisien alerte le gouvernement et demande des travaux d'ampleur. Isabelle Chenu, bonjour.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Le nombre exponentiel de visiteurs aggrave la situation.
Oui, bah écoutez, c'est le revers du succès du Louvre où malgré la mise en place de quotas journaliers de 30 000 personnes, décision prise par la présidente Laurence Descartes, eh bien 9 millions de visiteurs ont été accueillis cette année. Le Louvre reste le musée le plus visité au monde et l'un des plus grands. Les espaces sont surexploités, il y a des avaries un peu partout, le rénover en profondeur est le combat de Laurence Descartes, mais qui explique que visiter le Louvre est devenu une épreuve physique. Il faut faire la queue malgré le système de réservation. Il n'y a aucun espace de pause. L'offre alimentaire et le nombre de sanitaires est bien en deçà des standards internationaux. La signalétique est complètement à revoir. Bref, il y a du travail.
Difficile en période de restrictions budgétaires de prévoir une vague de grands travaux.
Sans doute, mais il en va de l'image de la France et on y réfléchit tout de même au plus haut niveau de l'État, puisque vous vous souvenez que c'est là qu'Emmanuel Macron avait mis en scène son élection en 2017. Alors le Louvre, c'est une cause sacrée. Son modèle, ce modèle des années 80 du Grand Louvre voulu par François Mitterrand est complètement dépassé. À l'époque, on accueillait deux fois moins de visiteurs. On sait que la pyramide de verre en été fait effet de serre, il fait très chaud en dessous. L'acoustique est déplorable, il n'y a aucune isolation phonique et le bruit est intense. Il faudrait créer une deuxième entrée pour désengorger les accès de la pyramide et le faire dans une perspective d'une vision urbaine d'ensemble, en ouvrant sur le quartier qui s'est beaucoup transformé. Et puis, 70% des visiteurs du Louvre sont étrangers et ils viennent, Karine, pour trois chefs-d'œuvre, la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace.
Sans surprise.
Et surtout, la Joconde de Léonard de Vinci, dont la présentation devrait être entièrement remaniée. Actuellement, une foule compacte armée de téléphones fait des selfies et on ne voit rien.
Isabelle Chenu, chef du service culture d'RFI, et c'est sur cette information que l'on referme ce journal.